VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Il est 16h à Lomé et 15h à Kinshasa. 38 personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi dans le sud-est du Niger dans une attaque des islamistes de Boko Haram, indique l'AFP. Il s'agit des plus lourdes pertes civiles enregistrées au Niger depuis que le pays est entré en février dernier dans la coalition de lutte contre le groupe extrémiste d'origine nigériane. Les salafistes sont venus à bord de véhicules. Ils les ont laissés juste à la frontière et sont venus à pied attaquer les deux villages, a raconté un journaliste indépendant, ajoutant que les assaillants ont poussé les femmes et des enfants dans des maisons avant d'y mettre le feu. Les autorités de transition en Centrafrique ont fixé ce vendredi la tenue de l'élection présidentielle au 18 octobre, rapporte l'AFP. Il s'agit du troisième report de ce scrutin, initialement prévu en novembre 2014 dans ce pays en crise politico-sécuritaire. Selon le nouveau calendrier rendu public à la radio nationale, proposé par l'autorité nationale des élections et validé par le comité stratégique de suivi des élections, le premier tour des législatives et de la présidentielle est fixé au 18 octobre et l'éventuel second tour de ces deux scrutins au 22 novembre. Le régime de transition prévoit un référendum constitutionnel le 4 octobre, a déclaré à la radio Adrien Poussou, conseiller en communication du Premier ministre. Le texte définitif du projet de nouvelle constitution ainsi que le code électoral doivent être prêts d'ici là. La violence contre les enfants au Soudan du Sud a atteint un nouveau niveau de brutalité depuis le mois de mai, a fait savoir dans un communiqué le directeur de l'UNICEF, Anthony Lake. Des précisions avec Michel Joseph.
Les détails de l'aggravation de la violence contre les enfants sont inqualifiables, mais nous devons en parler, s'insurge le directeur de l'UNICEF. Au moins 129 enfants dans l'état d'unité ont été tués pendant seulement 3 semaines en mai. Les survivants indiquent que des garçons ont été émasculés et saignés à mort. Des filles d'à peine 8 ans ont été violées collectivement et assassinées. Des enfants ont été attachés ensemble avant que leurs agresseurs ne les égorgent. D'autres ont été jetés dans des bâtiments en feu, poursuit Anthony Lake. Des enfants sont aussi agressivement recrutés dans des groupes armés des deux côtés à un rythme alarmant. Ils ont environ 13 000 contraints de participer au conflit, rappelle M. Lake, ajoutant « Imaginez les effets psychologiques et physiques sur ces enfants, non seulement de la violence qui leur est infligée, mais aussi la violence qu'ils sont forcés d'infliger à d'autres. » Au nom de l'humanité et de la décence ordinaire, cette violence contre les innocents doit cesser, a souligné M. Lake. La guerre civile au Soudan du Sud est caractérisée par des massacres ethniques attribuables aux rebelles tout comme aux troupes gouvernementales. L'ONU a averti cette semaine que 250 000 enfants risquaient de mourir de faim au Soudan du Sud et que les 2/3 des 12 millions d'habitants ont besoin d'aide humanitaire et sécuritaire.
Au Burundi, selon l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, au moins 70 personnes ont été tuées et environ 500 blessées dans les violences liées au mouvement de contestation depuis le mois d'avril. Environ 1 000 000 de personnes arrêtées depuis le début des manifestations contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat sont encore en détention. D'autre part, un responsable du parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi par des hommes armés à Matana, dans le sud du pays, rapporte l'AFP. Changement de gouvernement au Bénin. Le nouveau Premier ministre et le banquier franco-béninois Lionel Zinsou, président de la Fondation franco-africaine pour la croissance. Son gouvernement a 28 membres contre 27 pour le précédent. Le portefeuille de plus est un nouveau poste de vice-premier ministre. La Tunisie a annoncé la fermeture de son consulat à Tripoli après la libération de ses 10 fonctionnaires enlevés la semaine dernière par une milice armée de Fajr Libya. La Tunisie ne disposait plus d'ambassade à Tripoli. Le Royaume-Uni a allégé les restrictions de voyage sur la côte kényane mises en place en raison d'attaques du groupe islamiste Al-Shabaab. Celles du port de Mombasa étaient très, très touristiques, ont été levées. Londres déconseille toujours l'archipel de Lamu près de la frontière somalienne et tout voyage non essentiel à moins de 60 km de la frontière en raison d'un risque élevé de terrorisme et de kidnapping. Les stations balnéaires plus au sud, dont celles qui jouxtent Mombasa, sont désormais autorisées, indique le Foreign Office sur son site web. Les pays occidentaux ont multiplié les avertissements sur les zones côtières kényanes ces dernières années où les attentats sont fréquents. Le Kenya dénonce ces alertes étant donné l'effet qu'elles ont sur le secteur touristique. Le tourisme représente 11% du PIB de la première économie d'Afrique de l'Est.
VOA Afrique en direct de Washington.
Dans un communiqué mis en ligne la nuit dernière, Al-Qaïda au Maghreb islamique a démenti la mort du chef djihadiste Mokhtar Belmokhtar dans une frappe américaine le week-end dernier en Libye. Le groupe Al-Mourabitoun de Belmokhtar avait déjà démenti jeudi la mort de son chef dans cette frappe. Les États-Unis ont annoncé avoir mené dimanche un raid dans l'est de la Libye pour tenter de tuer Mokhtar Belmokhtar. Et le gouvernement libyen avait affirmé que ce dernier avait péri dans la frappe. Aux États-Unis, audience au tribunal aujourd'hui pour le jeune homme qui a tué 9 Africains américains mercredi soir dans une église historique de Charleston en Caroline du Sud. La ministre de la Justice, Loretta Lynch, a annoncé l'ouverture d'une enquête fédérale pour déterminer si ce massacre était un crime de haine. Après la fusillade, le président Barack Obama a dénoncé ce qu'il a qualifié de meurtre insensé et a appelé à agir contre la propagation des armes à feu aux États-Unis. Des précisions avec Idrissa Seydoudia.
L'auteur présumé de la fusillade a été arrêté. Il s'agit d'un certain Dylan Storm Roof, un blanc de 21 ans. La gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, avait du mal à contenir son émotion quand elle s'est adressée à la presse à Charleston.
And the heart and soul of South Carolina was broken.
Et le cœur, l'âme de la Caroline du Sud a été brisée. Nous devons endurer une certaine douleur. Les parents devront expliquer à leurs enfants comment ils peuvent aller à l'église et s'y sentir en sécurité.
À la Maison-Blanche, le président Obama a exprimé le même sentiment de douleur et de tristesse, mais aussi de colère pour avoir à parler encore de la violence causée par les armes à feu.
Un cessez-le-feu au Yémen a besoin de plus de consultations, mais peut être conclu assez rapidement, a déclaré ce vendredi à Genève l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, le sous-secrétaire général Ismail Ulcheikh Ahmed. Lors d'une conférence à l'issue des consultations à Genève sur le Yémen, qui se sont terminées aujourd'hui sans résultat, le diplomate a indiqué que si une nouvelle série de négociations était organisée, un accord sur un cessez-le-feu pourrait être atteint rapidement. Aucune date n'a été fixée pour de nouvelles consultations. Dans un rapport publié aujourd'hui, Human Rights Watch exhorte l'Union européenne à maintenir ses opérations de grande envergure pour secourir les migrants cherchant asile sur son territoire. Les dirigeants européens vont discuter de ce problème la semaine prochaine. Des milliers de migrants en provenance d'Afrique et du Moyen-Orient traversent la Méditerranée en quête d'asile et l'Union européenne tente de mettre en place une nouvelle politique pour faire face à cette situation. Selon Human Rights Watch, qui a interrogé récemment 150 demandeurs d'asile en Italie et en Grèce, la plupart des migrants disent fuir leur pays pour échapper à des violations des droits humains. L'Union européenne a prolongé d'un an une série de sanctions décrétées pour protester contre l'annexion illégale de la Crimée par la Russie, 2 jours après avoir décidé de prolonger de 6 mois d'autres sanctions économiques en lien avec la crise en Ukraine. Les sanctions prises graduellement depuis un an et qui sont renouvelées jusqu'au 23 juin 2016 interdisent notamment tout investissement européen dans la péninsule, mais aussi les exportations de produits et technologies dans les domaines du transport, des télécoms et de l'énergie.